Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons du pouvoir communiste de l'islam et de sa présence en Union soviétique avec Madame l'académicienne, chère Hélène Carrère-Doncos. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois et nos amis auditeurs vous sauront gré de tous les propos que vous allez tenir pour nous édifier, nous tous, à propos de cette thématique de l'islam et du pouvoir communiste. Vous êtes immortel et secrétaire perpétuel de l'Académie. Si vous voulez bien, en cette année de commémoration du centenaire de la révolution bolchevique, nous nous intéressons à l'émission « Questions d'islam », au sort et à la tradition religieuse islamique, d'abord à la fin de l'Empire tsariste et après, nous le verrons ensemble, comment les choses se sont-elles passées au moment de la Révolution et après. J'ai cru comprendre que les citoyens, les sujets musulmans de l'Empire représentaient en gros quelque chose aux alentours de 16%, peut-être un peu plus, un peu moins.
On dit 15%, c'est un classique. Je voudrais d'abord vous dire que je trouve extrêmement important que vous fassiez cette émission. Parce que je pense que l'islam est le problème de notre début de 21e siècle. Et en Russie, il s'est posé d'une façon tellement, je dirais, lumineuse. Enfin, la question de qu'est-ce qu'être musulman est une question que les Russes se sont toujours posées. Et ça peut être lourd d'enseignement pour tout le monde. Alors, vous avez raison de commencer par avant la Révolution. Et je dirais qu'il faut même remonter, dans la mesure du possible, à la fin, au tournant du 19e siècle et du 20e siècle. Précisément parce que la question de être musulman, d'une identité musulmane, la question d'être musulman dans un milieu politique non musulman, est une question qui a agité les élites musulmanes de Russie extrêmement tôt. Et en ce sens, on retrouve quelque chose qui, dès le 18e siècle, devient bouleversant pour les musulmans, un peu partout. Ils ont conscience qu'ils sont les héritiers d'une tradition extraordinaire, d'un empire extraordinaire. Et qu'au fond, à partir du 18e siècle, ils se trouvent dans des situations de suggestion, de domination. Bon, il y a une réflexion dans le monde musulman qui a commencé tôt. Dans l'Empire des Tsars, elle a commencé plus tard, pour une raison simple, c'est qu'au fond, l'Empire des Tsars avait... Il y a deux piliers, je voudrais tout de même être clair pour vos auditeurs.
Non, mais je vous en prie.
Ce qui est la Russie, je dirais la Russie géographique d'aujourd'hui, elle avait déjà une population islamique considérable. Tout le long de la Volga et dans l'Oural, les communautés musulmanes étaient importantes. Il y avait des principautés, des émirats musulmans, les Tatars, les Bachkirs, tout ça. Ils étaient là avant que la Russie s'étende jusqu'à eux. Donc il y a eu une relation entre les Russes et les musulmans déjà extrêmement lointaine. Et toute la préoccupation de l'Empire des Tsars a été de s'étendre, je dirais, de renverser la situation et de dominer, d'intégrer ces populations islamiques. Et je voudrais rappeler que Ivan le Terrible, avec la prise de Kazan, a marqué le renversement de la situation le jour où les Russes n'ont plus eu peur de ces principautés musulmanes. Ivan le Terrible, lui, avait une vision extrêmement négative de l'islam. Il a décidé, on supprime l'islam et la question est réglée. Donc, dans toutes les terres conquises, Ivan le Terrible a interdit l'islam.
Il y aurait eu des conversions de force.
D'une part, il y a eu des conversions de force, mais je dirais symboliquement, parce que c'est très important, j'y reviendrai pour la période contemporaine, symboliquement, il a fait abattre le centre de ce monde musulman aux yeux des Russes, dans la psyché russe. C'était Kazan. Et il a fait abattre la mosquée cathédrale de Kazan et édifier à sa place une grande cathédrale. L'enseignement de l'islam a été interdit, on n'imprimait pas le Coran. Il faut attendre Catherine II, 1783, pour que Catherine II considère qu'il faut se réconcilier avec l'islam, que l'islam avait sa place, que c'était une composante de cet empire dont elle était l'impératrice. Et avec Catherine II, on imprime le Coran. Il y avait véritablement... La symbolique est considérable dans cette affaire.
Et, bien qu'elle fût en friction, voire en guerre avec l'Empire ottoman, elle avait une bienveillance...
C'était deux choses différentes pour elle. Il y avait l'espace extérieur et les conquêtes, la puissance de l'Empire, et il y avait la communauté de ses administrés. Et dans cette communauté de ses administrés, il y avait un monde musulman. Et elle avait compris, j'y insiste, parce qu'elle a compris tout de suite l'importance de cette relation et de cette symbolique. Bon, je ne reste pas là, mais c'est pour dire que la réconciliation s'est opérée au XVIIIe siècle. Et on peut dire, bon, l'Empire s'étend au XIXe siècle, au-delà de ce qui était ces zones traditionnelles de la relation russe-musulman, au XIXe siècle, ce sont les conquêtes de l'Asie centrale, c'est une expansion dans le monde musulman, dans ce qui aujourd'hui s'appelle l'espace post-soviétique musulman. Ce sont deux catégories différentes, mais c'est extrêmement important dans la relation avec la Russie. Et là, la conquête s'opère sur des émirats puissants au XIXe siècle. Et c'est cette conquête qui a entraîné incontestablement la réflexion qui domine véritablement la vie intellectuelle du monde musulman russe au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes? Pourquoi nous qui étions puissants, qui faisions peur aux Russes? Il n'y a pas cette relation dans d'autres empires, parce qu'elle n'a pas été si longue, si marquée par les renversements de situation. La France n'avait pas, avec l'Algérie, des relations de domination, puis de... Tandis que là, il y a cette relation-là. Les Russes ont eu peur des musulmans, les musulmans ont arrêté trois siècles de l'islam tout de même, même si, la conquête de Genghis Khan, etc., ça n'était pas des musulmans au départ, mais ils se sont tous islamisés. Donc pour les Russes, ceux qui dominaient la Russie, c'était des musulmans. Trois siècles arrachés à l'histoire russe. Bon, mais pour les musulmans, là, il y a exactement l'inversion de ce tableau. C'est-à-dire, nous avons été les maîtres pendant trois siècles, et puis nous sommes dominés. Et cette réflexion des musulmans se perd au moment même où tout le monde musulman est bouleversé par ces questions. Je voudrais rappeler qu'en 1913, alors il y a eu la guerre russo-japonaise qui a encore aggravé les choses, même si les Japonais n'étaient pas musulmans, c'était la première grande défaite d'un grand empire européen par un peuple non-européen. Et ça a accéléré la réflexion, c'est-à-dire ça a introduit l'idée que l'histoire s'inversait. Et ça, c'est extrêmement important pour les musulmans. À cette époque-là, paraît un journal en Afghanistan, l'Asie aux Asiatiques, qui est extrêmement important. Alors, une fois encore, ça ne couvre pas toujours le monde musulman, encore que l'Afghanistan l'était, mais ça introduit la question du rapport entre les deux. Et ce qui est très important, ça l'introduit dans un rapport de puissance et dans un rapport spirituel. Quelle est la place de l'islam dans cette transformation? Ça, je crois qu'il faut le comprendre, parce que si on veut comprendre ce qu'est l'islam en Russie aujourd'hui, il faut comprendre qu'il a toujours joué un rôle, véritablement, que le rapport spirituel, ce qui identifie une communauté, ce qui la nourrit, ce qui la forme, c'est cela qui est décisif dans les rapports qu'elle peut avoir, dans les rapports de puissance avec...
Et à ce moment-là, et notamment à la charnière 19e-20e siècle, vous avez évoqué les élites musulmanes, donc certains de leurs penseurs et de leurs doctrinaires, voire de leurs théologiens, ont amorcé un travail de réforme dans ce fameux mouvement djihadiste.
Absolument. Et alors, on retrouve là les Tatars, qui sont véritablement, la partie la plus avancée de l'Empire, qui s'est étendue. Alors, à la fin du 19e siècle, l'Empire est devenu un empire musulman très important. Vous avez évoqué tout à l'heure des chiffres. C'est en effet au moins 15% de la population. Et il y a deux parties, si vous voulez. Il y a la vieille partie intellectuelle, Kazan, ce grand centre spirituel. Et puis l'Asie centrale, où il y a tout de même un grand lieu de référence musulman qui est Boukhara, avec les saints, et un centre soufi. Enfin, là, c'était extrêmement important. Mais c'est à Kazan que la réflexion commence, avec un homme tout à fait remarquable, Gasprinsky, Ismaël Beg Aspirali, qui est à l'origine véritablement de toute la pratiquement, qui lance cette réflexion sur dans quelle mesure la façon dont nous musulmans avons évolué, sommes-nous responsables de notre déclin? Comment est-ce que l'islam doit aborder un monde transformé? Et Gasprinski a été l'inventeur, je dirais, de la réforme musulmane dans l'Empire des Tsars, et c'est un des immenses penseurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, parallèlement à ça, dans cette Asie centrale, parce que c'est, tout à l'heure, nous allons parler de la révolution, et là, nous avons une situation coloniale, et pas seulement une situation de domination nationale, dans cette Asie centrale, la réflexion s'est étendue extrêmement vite, je dirais en liaison avec la réflexion de Gasprinski et en même temps en se fondant sur une situation coloniale. C'est-à-dire, c'était une colonie de peuplement. Les colons sont venus parce que les terres de l'Asie centrale étaient riches, la culture du coton, la révolution américaine avait, au XIXe siècle, coupé à un moment donné la puissance exportatrice des cotonniers américains et a donné à l'Empire russe l'idée qu'il avait en Asie centrale une mine d'or qu'il fallait exploiter. Et ça explique, l'envoi de colons, et même d'ailleurs les exodes volontaires de paysans russes qui, libérés par l'abolition du servage, n'avaient pas les terres en Russie pour pouvoir bénéficier de la liberté qu'ils avaient récupérée. Là, on leur offrait des terres. Donc, la notion de colonisation est fondamentale dans cette affaire. Et on voit, c'est très intéressant, à partir du XIXe siècle, se développer une élite nationale, qu'on appelle dans la terminologie courante bourgeoisie, qu'on appellera la bourgeoisie nationale. Je ne sais pas si le terme est tout à fait adéquat. C'est en tout cas une élite intellectuelle remarquable, qui se trouve prise en étau entre l'identité musulmane, où la question, au fond, du déclin du monde musulman et l'admiration pour le monde moderne. Car début du XXe siècle, le mouvement des jeunes turcs, la révolution va se développer et il faut penser que le monde musulman de Russie est largement turcisant, à part les iranophones qui sont minoritaires.
Ismaël Gasprinski mourra un 11 septembre, d'ailleurs 1914. Donc ce sont plutôt ses continuateurs ou ses héritiers intellectuels, légataires de sa pensée.
Qui ont fondé ce qu'on appelait la réflexion moderniste, c'est-à-dire le djadidisme.
Le djadidisme, mot qui d'ailleurs est d'origine arabe, qui veut dire rénovation.
Rénovation.
Rénovation, exactement.
Et c'est ça qui est très important à comprendre pour notre époque. C'est que ça n'était pas un obscurantisme, c'était une volonté à la fois de rester musulman, une volonté de rendre vie à l'islam, mais de l'adapter au monde moderne. Ça s'est heurté évidemment au conservatisme musulman qui était très puissant, qui était largement représenté par le monde arabe.
Oui, j'allais dire que c'était plutôt dans le monde arabe.
Absolument. Il reste qu'un musulman d'Asie centrale regardait vers la Mecque, regardait vers l'université, vers ce qu'on disait à Lazare. Donc, ils étaient pris dans un piège, c'est-à-dire qu'il y avait, je dirais, le lieu central de la légalité islamique et leur propre réflexion. Ils étaient déjà des marginaux, ils étaient sur les marges, même pour le monde arabe. Vous savez, quand ils allaient en pèlerinage, il y a des récits comme ça qu'on trouve. Ils ne venaient pas du monde arabe, ils venaient de la périphérie du monde arabe. D'abord, leur langue n'était pas arabe, elle était essentiellement turque. Leur islamisation avait suivi un rythme différent. La steppe khazare est une steppe qui s'est islamisée, au fond, à la fin du XIXe siècle, et on n'y trouvait même pas de mosquée.
Et ce qui est étonnant, c'est que, du point de vue démographique et même du point de vue d'importance au niveau de l'histoire, c'est en Asie centrale, que l'islamité a été prégnante.
Absolument, et elle a été remarquable. Et alors, en Asie centrale, parce que c'est... Il y a tout de même les lieux saints aussi, là. Hein. C'est un... avec cet islam très proche du soufisme qui s'est développé très vite et qui donnait aussi, je dirais, un caractère propre à l'islam-là, c'est-à-dire le sentiment d'avoir une voie propre à suivre. C'est le tableau, je dirais, avant la révolution. Et c'est un tableau qui, évidemment, fait qu'à l'heure de la révolution, on peut dire que les bolcheviks ont été complètement dépassés devant cette situation. Ils n'avaient pas prévu ça, déjà. Et je crois qu'il faut tout de même le voir, Lénine était le seul qui avait compris qu'il y avait... La Russie était tout de même, c'était pas comme le reste du monde, c'était à la fois un État multiethnique et un empire colonial. Elle avait les deux caractères. Et l'empire colonial, il était là où était l'islam. Lénine, au fond, le mouvement communiste international, dont Lénine est, où Lénine prend une place importante à partir de 1902 et 1907 au congrès de Stuttgart, n'était-il pas du tout préparé à s'intéresser à ce type de problème? Déjà, les questions religieuses, ça n'intéressait personne. Et la question nationale, le poids d'une spécificité, quelque part, ne se posait à personne. On ne s'interrogeait pas pour savoir si ça pouvait avoir une place dans la stratégie révolutionnaire. Et Lénine a jeté les bases. Il regardait ça avec intérêt. Quand on regarde ses écrits, on se rend compte, cet homme qui a vécu en exil pratiquement toute sa vie, qui ne savait pas très bien comment ça se passait sur le terrain, qui n'avait jamais mis les pieds en Asie centrale, ni à Kazan, ni nulle part, il a tout de même saisi, dans un premier temps, qu'il y avait un problème national, et dans un second, et c'est dès 1907, eh bien, qu'il y a un problème colonial, que l'Asie centrale est une question fondamentale, et il pose dès ce moment-là la question d'introduire dans la stratégie. Est-ce que la stratégie révolutionnaire est une stratégie uniquement telle que l'avait imaginé Marx, la stratégie du mouvement ouvrier et de sa confrontation avec le capital? Et on peut dire qu'en 1916, avec les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, Lénine a mis les choses au clair. Bon, ce qui était assez inacceptable à tout le monde d'ailleurs, il y a eu un débat considérable. La révolution est arrivée et là, Lénine avait eu des idées théoriques, c'est-à-dire que sa grande théorie, c'est que la révolution ouvrière qui allait tarder devait s'appuyer sur la révolution, les révolutions nationales, éventuellement coloniales, pour pouvoir se déclencher. Bon, les choses sont tournées un petit peu différemment. La révolution russe a été une révolution limitée. Mais toute la périphérie entre en révolution et le premier signal révolutionnaire dans l'Empire russe, c'est dans la steppe kazakh. 1916, d'ailleurs, les Kazakhs et tous les responsables de cette bourgeoisie nationale d'Asie centrale disaient 1917 a commencé en 1916 chez nous. Bon. Mais ça commence dans un milieu où le débat entre l'islam, la réforme islamique, la capacité de ces peuples à adhérer au monde moderne en conservant leur personnalité et le mouvement révolutionnaire, la transformation sociale, s'entremêlent étroitement.
Alors, Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'académicienne Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie. Et c'est en votre qualité d'historienne, Hélène Carrère-Dancos, que j'ai plaisir à vous accueillir dans cette émission pour nous parler du pouvoir communiste et de l'islam sous l'ère soviétique. Et nous sommes arrivés donc à la révolution bolchevique. On est en 1917. Après février, il va y avoir le 1er mai 1917 un premier congrès
des musulmans
dont les conséquences sont extraordinaires et notamment pour la condition féminine.
Oui. La condition féminine, c'est une de grandes questions. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a tout de même une situation qui est extrêmement intéressante. Je reviens à l'Asie centrale. On a là une révolution coloniale. C'est-à-dire que la révolution a opposé deux blocs. D'une part, tous les Russes, les militaires, les propriétaires, les colons, les ouvriers, tous se sont ligués contre ce mouvement de la société halogène pour défendre les intérêts russes. Et ça, c'est absolument fondamental, car pour les élites nationales, la démonstration a été faite qu'au fond, il y a une spécificité, non pas coloniale, parce que ce n'est pas en termes de coloniaux qu'ils débattaient, mais une spécificité de la société musulmane face à la société russe, et on peut dire que le fossé s'est approfondi. Alors, c'est là qu'on va retrouver d'autres types de personnalités. Kasprinsky disparaît, mais c'est toujours le milieu de Kazan, c'est-à-dire ce centre extrêmement vivant du monde musulman de Russie, d'où va émerger la personnalité de Soultan Galiev, qui va être le théoricien, je dirais, à la fois de la révolution en milieu colonial et du rôle de l'islam dans la révolution. Et qui est une personnalité qui va évidemment terrifier absolument Lénine et les bolcheviks, qui ne savent pas très bien ce qu'on fait avec ça. Pour les bolcheviks, je veux dire qu'en gros, pour les compagnons de Lénine, tout cela est inacceptable. On est dans un folklore. Et la vision de la révolution telle qu'elle s'est déroulée, c'est pour ça que ce qui s'appelait le Turkestan, l'Asie centrale, c'était le Turkestan, passe au premier plan. Le lieu intellectuel d'où viennent les idées, c'est Kazan, mais c'est le Turkestan qui fait la démonstration qu'il existe une situation coloniale où les intérêts de la puissance colonisatrice sont d'un côté, toutes classes confondues, et la personnalité du monde dominé se rassemble autour. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient pour se rassembler? Non pas les thèmes de la lutte sociale, mais l'identité propre. Et ça va être une question extrêmement difficile. Soultan Galiev va passer d'une position, je dirais, de communiste musulman, car incontestablement, il adhère au communisme, progressivement à une conception propre de la spécificité de la révolution en milieu musulman et en milieu colonial.
Parce qu'il conjuguait, ça allait de pair, les valeurs d'entraide, de solidarité qu'il a dans la tradition.
Dans la révolution bolchevique.
Et dans la tradition.
Et les valeurs propres de l'islam et de la société islamique. Ça, c'est un... Et incontestablement, les valeurs de la société islamique restent ancrées parce qu'elles ont fait partie de tout le débat antérieur. La question, est-ce qu'on se modernise en se fondant sur ce qu'est l'islam, ou bien en adoptant complètement la spécificité occidentale, c'était au cœur du débat. Et ce débat est déjà tranché pour Soultan Galiev dès 1917. Pour lui, la société musulmane, avec ses valeurs, avec sa vision morale et intellectuelle, elle est un élément de modernisation extraordinairement puissant, lié au fait qu'il y a eu la domination subie par cette société, la conscience qu'elle a de sa grandeur passée et de ce qu'elle peut redevenir.
Et Lénine lui-même était aussi pour cette liberté de conscience, donc continuer à pratiquer tout en étant pour le communisme.
Oui ou non,
je ne sais pas. Non. Donc Lénine, je pose la question.
Lénine ne savait, je dirais, ne s'est posé la question qu'assez tardivement, parce qu'au fond, il a été tout de même extrêmement choqué par le fait qu'étape par étape, il a été obligé sans arrêt de faire des concessions à ce monde qu'il découvrait. Pour Lénine, la religion était un problème secondaire absolument, mais la force des religions, la force sociale et politique, était le problème. Le problème spirituel ne l'intéressait pas, mais il va se heurter très vite, d'une part au pouvoir moral et politique des religions, à leur puissance, notamment lorsqu'il s'agit de récupérer les biens de l'Église. Ça a été un problème. Et avec les musulmans, il a eu l'impression d'être devant un monde totalement incompréhensible, et notamment défenseur de valeurs sociales. Vous avez évoqué les femmes. Le statut de la femme, c'était pour lui un problème fondamental, mais un problème que dans la pratique, il a résolu en sens inverse. C'est-à-dire que les femmes ont été les outils qu'il a utilisés, mais la place des femmes dans la révolution est considérable.
J'ai appris qu'il leur demandait, pas lui directement, mais on leur demandait de porter un voile pour entrer dans les mosquées afin d'amener la bonne Absolument. Parole aux femmes fidèles qui allaient dans les mosquées.
Dans la première phase, oui. Et dans la seconde, la volonté de détruire complètement ces symboles de l'islam prendra le pas là-dessus. Mais c'est vrai que pour Lénine, il fallait composer. Il fallait composer pour que la population ne se rattache pas à ses valeurs traditionnelles. Et ça a été le grand débat. Mais il s'est trouvé devant une situation en Asie centrale qui lui échappait complètement, parce que c'est la situation qui s'est faite sur place. La révolution, on a une révolution bourgeoise, notamment le gouvernement national de Mustafa Tchokaïev au Turkestan, qui joue un rôle considérable et autour duquel va s'organiser une résistance contre cette sécularisation absolue. Pourtant, c'était des musulmans modernistes, mais la crainte de la sécularisation, c'est-à-dire d'une destruction des valeurs propres de l'islam, a très vite opposé ce gouvernement au gouvernement ouvrier. Et puis, les autorités issues de la coalition de tous les Russes. C'est ça qui était fondamental, c'est-à-dire cette révolution qui prend un tour colonial tout de suite. La situation sur le terrain a certainement joué un rôle dans l'évolution de la pensée de Soultan Galiyev, qui est passé d'une vision, je dirais, révolutionnaire relativement classique. En effet, réunir la communauté musulmane dans le mouvement révolutionnaire, les congrès musulmans, mais en même temps, il y avait la communauté qui était là. Il a, dans un premier temps, au fond, il adhère à l'idée d'une révolution sociale. Et puis, très vite, à partir de 1919-1920, il se rend compte de la spécificité de cette révolution. Et il pose cette question, est-ce que la révolution, ce n'est pas la prise en compte de la spécificité morale, de la spécificité sociale, du monde musulman? Et est-ce que ce n'est pas l'élément le plus déterminant pour réussir une révolution? Et progressivement, sa pensée évolue d'une façon très radicale, puisqu'il en vient à considérer qu'en fait, il y a une primauté à accorder aux capacités révolutionnaires de ce monde, en l'organisant, par rapport à un monde occidental, je dirais au prolétariat occidental, qui n'a pas de capacité révolutionnaire.
Et pensez-vous que de 1917 à 20-21, il y avait une première phase à la fois d'interrogation, d'ajustement pour accompagner d'une manière duale les valeurs islamiques dans le cadre de la tradition, pour faire simple, et puis les valeurs du communisme. Et sur le point, j'en fais pas une obsession, mais ça me paraît important, du statut des femmes, j'ai cru comprendre qu'elles montaient lors d'un congrès au podium pour enlever leur voile, le brûler publiquement.
Oui, mais ça apparaît, je dirais que même pour les communistes de l'espace musulman, ça apparaissait comme un pas trop rapide.
Très bien.
Et comme une possible provocation aux yeux de la société qui écarterait la société de ce mouvement modernisateur. C'est-à-dire que les femmes ont été un petit peu piégées. Et ça n'est pas étonnant si, dans un second stade, à partir de 21-22, si elles ont été l'objet de violence, c'est-à-dire qu'elles ont été contraintes de s'adapter ou de reconnaître que l'émancipation en milieu musulman ne prenait pas les formes extérieures dont elles étaient avides de les imposer.
Chère Hélène Carrère-Doncos, il y a aussi un autre aspect. Il y avait dans un premier temps aussi un système parallèle, tant sur le plan éducatif que sur le plan juridique. Il y avait les tribunaux soviétiques Absolument. D'un côté les tribunaux charaïques, comme on dit. Sauf que la suprématie, le primat était pour les tribunaux soviétiques en dernier recours.
Oui, mais le droit musulman, tout de même, subsiste presque souterrainement. Et l'idée qu'il existe, ça a été un immense débat, véritablement. Parce que pour la communauté musulmane, ce sont ces règles juridiques et morales qui prévalaient. Alors, c'est vrai que le droit soviétique, ça a été... Mais on peut dire que la rupture se passe à partir de 1900, avec la fin de l'ANEP. L'ANEP a été une période à donner un temps de respiration. On a le temps de la révolution 1919-1920. Une fois terminée... parce qu'il y a un facteur dont il faut tenir compte. Ce sont les interventions étrangères ou le soutien étranger. L'Allemagne d'abord, l'Angleterre qui est là. Il y a un intérêt. Et même les socialistes européens qui se promènent dans toute l'Asie centrale et qui se posent en protecteur. Hein, et puis, la fin.
L'ANEP étant la nouvelle économie politique.
La nouvelle politique économique, mais elle correspond... Je dirais, après le communisme de guerre qui a été une période de rupture. Tout de même, je veux dire que du point de vue de Lénine, il y a eu une période d'acceptation du caractère spécifique de cette révolution en terre d'islam. On laisse, d'ailleurs, c'est là qu'on laisse Soultan Galiyev réunir des congrès musulmans et tout ce qu'il veut. Puis le communisme de guerre qui est une période extrêmement dure avec l'idée qu'il faut que la révolution aille de l'avant. Ça correspond aux interventions étrangères, à la guerre civile, la situation est extrêmement tendue. Et alors je voudrais dire une chose qui est très importante, c'est que les musulmans ont été proches des Blancs, mais en même temps, les responsables blancs de la guerre civile ont prôné l'Empire, la restauration de l'Empire un et indivisible. Et cela a évidemment ruiné cette alliance possible qui, en Asie centrale, aurait probablement défait la révolution. Le mouvement national et le mouvement musulman se confondent à ce moment-là. C'est-à-dire que la volonté d'émancipation, qui repose d'ailleurs sur les propos de Lénine, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la volonté d'émancipation conduit les musulmans à considérer qu'il y a un islam national possible. Et c'est d'ailleurs ce que dira Soultan Galiyev. Les bolcheviks n'ont pas bronché jusqu'en 1921, la guerre civile terminée, les interventions étrangères terminées, l'État russe qui prend forme, la décision de Lénine, c'est là qui est le tournant. Au fond, Lénine, à partir de 1921, choisit, jusque-là, on était dans les phases de transition, en 21, il choisit l'État. La révolution dans un seul pays, ça n'est pas lui qui le théorise, mais incontestablement, il sait qu'il n'y a plus d'autre issue puisque toutes les portes révolutionnaires sont terminées. Après, avec l'aventure polonaise, il n'y avait plus de possibilités de révolution mondiale. Bon, à partir de ce moment-là, commence l'idée d'une remise en ordre, avec deux phases, la période de la NEP, de la nouvelle politique économique, qui est une tentative de réconcilier avec la société, à la fois en lui faisant des concessions matérielles, mais en lui faisant aussi des concessions morales. Il y a une sorte de cohabitation. Et puis la rupture, à partir de 1924,
Zinoviev y était pour quelque chose ou pas? Non, pas nécessairement.
Oui, Zinoviev était tout de même le patron de l'international communiste. Et il a été... Alors, je voudrais revenir aux débats qui ont eu lieu. En 1920, quand la révolution... Il y a deux étapes. Le deuxième congrès de l'international et le congrès de Bakou. L'un se déroule en juillet 1920 et l'autre en septembre 1920. Juillet 1920... Les troupes bolcheviques, les troupes de Tukhachevski, sont aux portes de la Pologne. Les Polonais avaient d'abord, été les maîtres du terrain, et puis les troupes bolcheviques sont aux portes de la Pologne. Pour Lénine, la question est de savoir si on fait la révolution mondiale en jetant les troupes à travers la Pologne et en tendant la main au prolétariat polonais allemand en essayant de le soulever enfin par la force, quoi. Et le deuxième congrès du Comintern se déroule dans une atmosphère tout à fait, je dis, heureuse. Tout le monde est très content parce qu'on croit que la révolution mondiale va éclater. Ce congrès est tout de même dominé par les représentants des pays développés. Mais Lénine va s'opposer à l'Italien Cerati, porte-parole d'une vision du communisme qui est un communisme occidental sur le modèle européen, et d'un Indien, l'Indien Roy, qui a une personnalité extraordinaire, dont le nom est sacro-saint dans tout le monde musulman, hein, c'est même si ce n'était pas... Roy est le porte-parole du monde des opprimés. Et il dit, votre révolution, ça, de toute façon, elle n'aura pas lieu, parce que ce sont les peuples opprimés, ce sont les peuples qui entrent dans la révolution avec leur personnalité, avec leurs idées propres, avec leur identité propre, qui sont capables de faire bouger le monde. Et c'est à cette révolution-là qu'il faut prêter attention. Bon, Lénine a essayé de faire une position intermédiaire, Zinoviev était tout à fait du côté de Cerati, mais se réunit deux mois plus tard, du 1er au 9 septembre, le congrès de Bakou, qui est un moment extraordinairement important pour le monde musulman, parce que ça a été le moment où les musulmans de Russie sont venus apporter devant le Comintern leur expérience de la révolution. Et lorsque le congrès se réunit, c'est une toute autre atmosphère, parce que l'armée de Tukhachevski a été défaite par les Polonais et par des Polonais qui ont été soutenus par des officiers tsaristes, etc. C'est-à-dire exactement ce qu'on avait vu dans la révolution au Turkestan, c'est ce que diront les musulmans de Russie, c'est-à-dire une coalition de tous les intérêts russes contre la révolution. Bon, alors quand se réunit le congrès de Bakou, et le président du congrès, c'est Zinoviev, Lénine n'y est pas, Zinoviev, Belakoun, qui a raté la révolution en Hongrie. Donc, si vous voulez, ce sont des hommes désespérés, là,
On peut dater que depuis, après la prise de position de Grigory Zinoviev, que les choses se sont inversées,
elle ne pouvait pas s'inverser. Elle ne pouvait pas s'inverser parce qu'on est précisément dans cette situation où ces hommes, qui sont les porteurs de l'idée révolutionnaire classique, sont devant la réalité, c'est que cette idée révolutionnaire vient de s'effondrer. Et que l'espoir révolutionnaire classique n'existe plus. Et qu'on a là, dans ce congrès, des hommes tout à fait remarquables, Narbuta Bekov, Birpoudzi, Faizullah Khojaïev, les porteurs, y compris un homme qui a été, je dirais, presque l'agent de Lénine en milieu musulman, Safarov, qui avait fait un livre remarquable sur le Turkestan colonie, qui était un bolchevique, qui comprenait, Safarov fait partie de ceux qui sont rentrés dans le wagon avec Lénine de Suisse, enfin, ça veut dire c'est un très proche. Et ces hommes qui dirigent le Comintern, c'est-à-dire Zinoviev, président du Comintern, qui a toujours défendu une version occidentale et pour qui le monde musulman n'existe pas, ça ne fait pas partie de la conception révolutionnaire, ils sont tout de même là devant l'idée comment est-ce qu'on peut essayer malgré tout de rattraper ces forces révolutionnaires qui existent, qui sont puissantes. Et ces Turkestanais sont montés tous à la tribune pour dire voilà notre expérience. C'est dans notre milieu musulman, pas seulement dans le milieu colonial, c'est notre spécificité qui permet ce soulèvement extraordinaire qui est en train de balayer le monde d'hier. Bon, et donc il y a eu une confrontation. Les musulmans exigeaient que l'on reconnaisse leur expérience, c'est-à-dire que l'on admette qu'il y a une primauté de la révolution en milieu spécifique. Bon, la révolution chinoise va découler de là. Deux, que l'on admette la spécificité sociale, la spécificité morale de leur mouvement et qu'on considère que c'est là la base du mouvement révolutionnaire qui va bouleverser le monde. Bon, Zinoviev, il a dit qu'il faut faire des concessions, mais il a toujours ajouté c'est temporaire et limité, avec l'espoir que ça finirait par s'arranger. Mais non, ça ne finit pas par s'arranger, parce que la révolution va s'étendre hors du monde européen, sur les mêmes bases.
ای چرخ ستم کار دل نالانه تخم هجر عالم دی Alem dir çektiğim efkana tokunmayor.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'académicienne Hélène Carrère-Dancos. Historienne, vous connaissez bien et dans le détail toute cette période et en cette année du centenaire de la révolution bolchevique, nous nous intéressons au rapport au pluriel, à UX, entre le pouvoir communiste, l'islam et toute la période, toute l'ère soviétique. Hélène Carrère-Dancos, comment les choses vont-elles devenir dures par la suite contre l'élément islamique sous l'ère soviétique, c'est avec Staline.
C'est avec la collectivisation, le tournant de 1929, parce que c'est capital dans la mesure où c'est un tournant qui entend casser complètement la société. Alors, la sédentarisation, la collectivisation et évidemment l'introduction des normes morales et sociales du système bolchevique. Vous aviez évoqué les femmes tout à l'heure. Le sort des femmes a été tragique dans cette affaire, car tout de même, elles avaient, dans la société centro-asiatique, elles ne jouaient pas un rôle central, même si elles avaient cru pouvoir à un moment donné bénéficier des avantages de cette révolution. Mais on peut dire que quand on regarde les établissements scolaires, etc., on voit très bien que leur niveau d'éducation n'était que les préoccupations pour leur éducation, qui étaient une des obsessions du mouvement djihadid. Ça ne touchait pas les femmes. Ce qui était important, c'était l'éducation des hommes et l'éducation qui permettait de rapprocher les communautés. Bon, il y a donc.
Il n'y avait pas un problème aussi de pénurie d'enseignants et donc on a donné la primauté aux garçons, ce qui est du machisme.
Alors, vous avez une version optimiste de la chose. Il me semble, moi j'ai beaucoup étudié cette question, il me semble justement qu'il y a eu un freinage.
Très bien.
Qu'il y avait une volonté tout de même de maintenir quelque chose. Les esprits les plus avancés. En Asie centrale, il y a eu un homme remarquable qui s'appelait Abdurraouf Fitrat, qui était un grand penseur, je dirais très moderniste. Quand on lit ses écrits, il n'y a pas une ligne sur l'éducation des femmes, alors qu'il insiste là-dessus. Bon, alors cela dit, les femmes, tout de même, dans les années, la révolution avait bouleversé le matériel, les femmes avaient pris des responsabilités tout simplement parce que les hommes se battaient, il y avait la guerre civile, tout ça. Et le tournant de 1929 a été un tournant terrible parce que le pouvoir bolchevique a dit il n'y a plus de... Les femmes rentrent dans la vie, alors là, officiellement, c'est-à-dire elles sont des acteurs de la vie sociale. Et il y a eu une réaction sociale en Asie centrale extrêmement forte, c'est-à-dire les femmes ont été attrapées dans les campagnes, des femmes qui se promenaient sans voile, sans rien, enterrées vivantes. Elles ont été au cœur du conflit entre la volonté bolchevique de transformer la société par la force d'unifier et la société, les éléments les plus conservateurs ont cherché sur quel terrain on pouvait résister. Et le statut des femmes a été un des terrains de la lutte absolument fondamentale. Et je dirais que c'est un des terrains qui a duré extrêmement longtemps. Alors, la violence, le pouvoir soviétique a imposé la loi soviétique, alors là, suppression complète du droit musulman, évidemment, et donc des rapports sociaux issus de ce droit, politique anti-religieuse à partir de 1929, extrêmement forte. La destruction des mosquées ou la fermeture des mosquées a été moins radicale, je dirais, que la destruction des églises orthodoxes, tout simplement parce que le terrain était d'abord un terrain social, un terrain de... Et puis parce qu'il n'y avait pas le problème de la confiscation des biens des églises ne s'est pas posé dans les mêmes termes. Dans une mosquée, vous n'avez pas des tas de ciboires et d'objets précieux à confisquer, mais ça a été la fin de la vie musulmane, de la vie religieuse musulmane.
On leur avait confisqué leur Coran et puis quelques
objets. Et surtout l'interdiction, l'interdiction d'imprimer le Coran, l'interdiction de faire circuler le Coran, de tout enseignement religieux. Et c'est ça qui est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'ils ont été réduits au statut commun. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. La société musulmane a été extraordinairement brisée par la sédentarisation, là où il y avait du nomadisme. La catastrophe humaine, c'est une catastrophe humaine. En Asie centrale, un véritable génocide. Et on peut dire que, alors je vais dire quelque chose d'un peu violent, que certainement dans cette Asie centrale, la volonté d'unifier la société, de l'arracher à ses traditions, correspond aussi à une volonté de briser la société presque par des moyens génocidaires. Enfin, c'est-à-dire on a réduit la part de la population, tout simplement par une violence extrême. Ailleurs, la population, c'était la théorie de Dzerzhinsky, elle était un outil économique. Les gens mouraient parce qu'on leur demandait trop. Mais là, de surcroît, ça a été la possibilité de réduire le milieu colonial par la liquidation d'une partie de la population. C'est une violence extrême. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'islam a tenu... Il y a une conscience musulmane qui a tenu très profondément. On ne voit pas dans les années 30, il est impossible de savoir ce que ça représente. Mais ce qui a ressurgi à partir de 1950, c'est-à-dire au tournant de la fin du stalinisme, montre très bien qu'il y a eu, et moi j'ai fait des études sur le terrain, montre qu'il y a eu dans la profondeur de la société une conviction islamique qui avait été affaiblie dans les années révolutionnaires, tout simplement parce que la violence de l'expérience révolutionnaire avait ébranlé toutes les certitudes, mais que devant la dureté du système soviétique, devant la répression, c'est une réflexion sur l'identité musulmane qui a permis à la société de tenir le coup.
Il y avait une sorte de crypto-islamisme, mais pas au sens actuel du terme, c'est un sentiment qui était ramené à la conscience personnelle.
À la conscience personnelle et à une conscience de la communauté. Et c'est une des choses que... Alors, évidemment, sous le stalinisme, rien ne peut ressortir. Mais dès 1953, on voit ça ressortir. Alors, je dirais que une des expériences qui a montré l'opposition entre les peuples musulmans et le système soviétique, ça a été la Seconde Guerre mondiale, où l'arrivée des troupes allemandes, principalement, l'un des objectifs d'Hitler était de s'emparer du Caucase et des ressources énergétiques du Caucase, entraîner ce que Staline a appelé la collaboration des peuples musulmans. Et ça a contribué, je dirais, à réveiller une conscience musulmane. Car quand Staline, en 1945, a décidé de mesures punitives, il a eu cette phrase terrible, il a dit « il y a des peuples entiers, non pas des hommes, mais des peuples entiers qui ont failli ». Les petits peuples du Caucase, qui étaient des peuples musulmans, les peuples de la Volga, ont été collectivement réprimés. Et ça a joué un rôle catalyseur dans leur réflexion sur leur identité, sur leur place dans le système.
Et les choses ne s'arrangent, si je puis dire, que sous Khrouchtchev.
Elles s'arrangent sous Khrouchtchev parce qu'il a pris conscience du problème national. C'est la vérité. Et qu'il a tout de même, dans le 20e congrès, dans le rapport secret, il a reconnu l'injustice qui avait été faite à ces peuples qui avaient été réprimés. Mais tous n'ont pas été exactement traités de la même façon. Et notamment les Tatars. Les Tatars Tatars de Crimée. Les Tatars sont restés éloignés de leurs terres, précisément parce que c'est là que la Crimée avait été un des hauts lieux de la réflexion islamique. Et on peut dire que c'est ce qui explique la méfiance du pouvoir à leur égard.
Alors, chère Hélène Carrère-Dancos, nous arrivons au terme de l'émission. De nos jours, maintenant, pour les deux minutes qui nous restent, comment les choses se présentent-elles, et notamment après la perestroïka et sous Poutine?
Alors, je voudrais dire, j'aime les symboles. Je trouve qu'il y a un symbole extraordinaire. Quand vous allez à Kazan, où Ivan le Terrible avait détruit la mosquée-cathédrale, lorsque les Tatars sont devenus des sujets de la Fédération de Russie, dans le vocabulaire actuel, leur président a décidé de reconstruire la mosquée cathédrale en face de la grande cathédrale d'Ivan le Terrible, sans abattre la cathédrale d'Ivan le Terrible. C'est-à-dire que là, je dirais, le rapport qui s'est établi est un rapport d'égalité, qui est tout à fait remarquable et qui rend compte de ce qui a survécu à travers l'épreuve du système soviétique. La volonté, et quand on voit ce qu'est le pays tatar, le sujet tatar, c'est un sujet musulman. Il est tout à fait clair que le droit musulman survit, là, sous le droit commun russe. Il est clair que l'islam est puissant et on est en pays tatar. Il y a une relation maintenant extrêmement intéressante. Je dirais que quand on va en Tchétchénie, chez le président Kadyrov, et je ne me prononce pas sur sa violence personnelle, mais enfin, dans son domaine, où c'est son lieu de gouvernement, qui est à quelques 20 km ou 30 km de Grozny, il y a une immense mosquée, et quand on lui demande pourquoi il y a une immense mosquée, il dit, mais attendez, les gens qui travaillent ici, pour le gouvernement de la Tchétchénie, comment voulez-vous qu'ils prient ? Donc, si vous voulez, ce sont peut-être les formes extérieures de l'islam, mais nous sommes dans la Russie contemporaine. Le monde musulman a retrouvé un droit de cité total avec sa spécificité et avec l'accord du pouvoir russe. Nous sommes dans le domaine, d'ailleurs, le président Poutine le dit, nous sommes aussi un grand pays musulman, et c'est la vérité.
Eh bien, madame, merci infiniment, madame l'académicienne. Je suis encore ravi de vous dire que nous avons reçu une immortelle, secrétaire perpétuelle de l'Académie. Et tout comme vous, permettez-moi de le dire, je ne féminise pas le titre. Et c'est en souscrivant à votre souhait, à juste raison. Nous étions donc dans cette année de commémoration, ou en tout cas d'anniversaire du centenaire de la révolution bolchevique, avec madame Hélène Carrère-Doncos pour parler du pouvoir communiste et des musulmans sous l'ère soviétique. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Olivier Dupré et la réalisation est toujours assurée avec brio par l'ami Franck Lima.
Kamandır ala gözlerim Her baldan şekerden şirin sözlerim Gel benim sevgilim ey nazlı dilben Aygız, aygız gəlləm dalınca Səndən əl çəkmərəm mənim olunca Aygız, aygız, aygız gəlləm dalınca Səndən əl çəkmərəm mənim olunca
meydan sinem dağlıdır. Bilirəm sevirsən amma kimdir nədən? Ay bilirəm sevirsən amma kimdir sevgilerden açar mı? Ay da, ay da, ay da. kör